Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance. C'est Areski Sugar qui vous parle. Pour vous dire que je suis en spectacle actuellement au Théâtre Beau-Saint-Martin à Paris. Donc si vous voulez venir voir une superbe heure de stand-up, n'hésitez pas à prendre vos places. Il reste des places pour les trois dernières représentations de la saison. Le 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bireduc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous.
Ça vient de ton côté, Areski Sugar, en fait, tu sais.
Non, je télécharge pas. Attends, je vérifie.
Oui, mais tu habites en province. Ouais,
excusez-moi, je télécharge à 3 mégasecondes. Ok. C'est pas de la fibre, mais je trouve que pour de la DSL, c'est pas mal.
T'as pas la fibre, toi ?
Eh non, pas ici. What ? Parce que ma Freebox, j'y tiens, en fait, quand même. Ça me permet de regarder, justement, tous les fichiers que je télécharge.
Mais tu sais qu'avec la Freebox, tu peux avoir la fibre ?
Je sais.
Genre, moi, je l'ai au bureau.
Je l'ai demandé, mais
pas en province.
Ils le font pas dans mon immeuble, ils le font pas. Alors que c'est con, mais genre, quoi, à 2 mètres d'ici, tu vas avoir des immeubles où justement Free va faire la fibre.
Est-ce que t'es capable de déménager pour ça ?
Si je t'ai chargé vraiment trop lentement, je déménagerai pour ça. mais là, ça va. Si je peux avoir un épisode de Game of Thrones en HD en 4
en
minutes.
15 secondes.
Ouais, je vais pas pleurer, quoi. Ah là là, nos problèmes de vie. Mais du coup, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance Oldies but Goodies. Aujourd'hui, on va parler de Belle de jour, qui était sortie initialement le 24 mai 1967, qui était un film de Louis Buñuel, avec Catherine Deneuve, Jean Sorel et Michael Piccoli. Épouse très réservée de Pierre, Séverine est en proie à des fantasmes masochistes révélant son insatisfaction sexuelle. Poussée par la curiosité, Séverine se rend discrètement dans une maison de rendez-vous et devient bientôt, à l'insu de Pierre, Belle de jour, la troisième pensionnaire de Madame Anaïs. Elle semble trouver son équilibre en assouvissant les désirs de ses clients, mais l'aventure tourne mal quand Marcel, voyou habitué de la maison, s'éprend de Séverine. Ah, ça spoil un peu déjà.
Ça spoil pas mal, ouais.
Petit clip.
Veux-tu que je te dise un secret, Séverine ? Je t'aime chaque jour davantage.
Un jour, il fallait que je vous voie. Sans votre mari, naturellement. Chez Anaïs. 11 cité Jean de Saumur.
N'ayez pas peur, vous êtes ici chez vous. Je suis toute prête à vous aider. Quand voudriez-vous commencer ? Vous êtes gentille et fraîche. C'est le genre qui plaît ici.
Est-ce que vous aviez déjà vu donc Belle de jour avant ? Et quand ? On va commencer par Alice qui l'a vu, je pense, 6000 fois. Mais là, quand est-ce que tu as vu le film pour la première fois ? Est-ce que tu étais âgée ou pas ?
Et je m'en souviens pas exactement, je pense que c'était adolescente quand j'étais en capacité d'aller chercher des vidéos sûrement autre part que dans mon vidéoclub habituel. Je pense que je devais avoir 14 ou 15 ans, c'est au moment où j'étais dans cette fameuse option cinéma au lycée. D'accord. Et donc on avait accès à un fond qui, avec des sous-titrages sur les DVD, ce qui n'était pas accessible à la scène sur mer. Enfin, c'est pour ça que j'ai beaucoup vu Dirty Dancing en français, mais maintenant je pense que je devais avoir 15 ans, ouais, 14 ans. Voilà.
Du coup, attends, mais t'étais dans un collège où il y avait une option cinéma ?
Un lycée, ouais.
Tu sais, un lycée avec une option cinéma, c'est trop bien.
Mais ça existe encore, en fait. Hein. Je sais que je suis un peu âgée, mais non, c'était...
Oui, Areski, ça n'existait pas dans le Tarn.
Alors, ça existait à Toulon, figure-toi, et ça m'a valu de me lever tous les matins, à 5h30 du matin, pour faire 1h30 de bus à l'aller et au retour, pour pouvoir le faire, exactement.
D'accord.
J'ai des volontés, hein.
Putain, là, j'avoue,
tout ça pour avoir des films sous-titrés.
Bravo.
Maintenant, ça existe un peu partout. Et voilà. Mais c'est une super option. C'est comme Art Plastique, mais sauf qu'on regarde des films.
Mais en mieux, ouais.
Et c'est cool. C'est super cool. Voilà. J'ai eu l'occasion donc de découvrir Belle de jour à ce moment-là, à mon avis.
D'accord. Ah, donc il y a eu un prof peut-être pour le prisme.
Pas du tout, du tout. Ce qui était super bien, c'est, il faut le dire, et là vous allez vraiment m'envier, bande de petits geeks de province, c'est que on a eu, en fait, c'était un lycée qui était neuf, et donc ils ont installé une salle de cinéma à usage exclusif de ces connards qui avaient choisi l'option ciné. Donc moi. Et donc en fait, entre midi et deux, on allait chercher des. Écoutez, j'ai grandi à Toulon pendant qu'il y avait le FN à la mairie, j'ai envie de dire compensation quand même. Il n'y avait pas de cinéma dans ma ville. Je me tapais 1h30 de bus aller-retour par jour pour faire ça. Donc j'avais le droit entre midi et deux de manger un sandwich chaud des beaux en regardant Belle du jour. Voilà. Donc voilà. Comment j'ai
pendant que nous, on piratait la salle du CDI du lycée La Pérouse pour nous projeter des films sur des draps.
Non, on avait une vraie salle de projection, tout ça, quoi, hein, vraiment les connards, quoi.
Ah, mais nous aussi, dans mon collège, on avait une salle de cinéma aussi, ça, je viens de m'en souvenir de ça.
C'est pas vrai.
Ouais, c'est vrai, on avait une salle de cinéma, c'était trop bien.
Qu'est-ce qui se passe?
J'avais oublié, en fait.
Il y a que nous, en fait, avons été bizutés.
J'avais complètement oublié, mais j'étais pas dans l'option cinéma, donc j'ai pas pu y aller beaucoup.
D'accord. Malheureusement. C'est pas trop tôt, ça, pour voir Belle de jour?
Oh non, j'ai vu Casino à sa sortie. Ça, non, bah, j'ai... mes parents, à partir du moment où c'était pas américain, ils étaient très, très. Ils m'ont toujours dit, si c'est pas américain, c'est bien. Donc, du coup, à partir du moment où c'était pas américain, je me disais, c'est un chef-d'œuvre. Donc, j'avais le droit de tout regarder. Non, mais sans problème, en fait.
Les parents d'Alice sont racistes, il faut le dire.
Oui.
Oui, complètement. Bah, légèrement communiste sur les bords, quoi. On a vu, tu vois, un peu rouge, quoi. Donc, voilà, c'était Disney, c'était le diable. J'ai regardé Disney assez tard, ou en tout cas vraiment en cachette chez mes cousins. Mais par contre, Casino, Belle de jour, tout ça, sans problème. Hein. Voilà. Mais non, Belle de jour à 15 ans, ça va, quoi. C'est pas non plus.
Oui. Mais bon, disons qu'on va dire que peut-être on est plus réceptif une fois qu'on commence à comprendre tous les versants de la sexualité de différentes personnes, quoi, par exemple.
Bah non, j'ai voulu me faire fouetter directement derrière, tu vois.
Première scène du film. Arnaud, toi, tu l'as vu quand pour la première fois?
Moi, c'était il y a un petit peu plus de 10 ans, c'était quand j'avais autour de 20 ans, à un moment où j'ai découvert pas mal de réalisateurs comme ça. Et d'ailleurs, il fait partie de ces réalisateurs, donc en fait, quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu la plupart de ses films à ce moment-là,
ouais.
Et je les ai pas forcément revisités après. D'accord. Et c'est vrai que dernièrement, là, je me suis remis à voir tout un tas de cinéastes que j'avais découvert quand j'avais... autour de 20 ans, c'est-à-dire Tarkovsky, David Lynch, Louis Buñuel, et tous ces films-là ressortent en ce moment depuis quelques mois au cinéma, et je les redécouvre un petit peu maintenant, 10 ans plus tard, et je dois avouer que c'est assez plaisant.
Là, tu l'as revu dernièrement au cinéma ou pas? Enfin, en ressortie ou...
Ouais, on est allé le voir hier au cinéma, parce qu'il y a 5 films de Buñuel là qui sont ressortis en ce moment.
Nous, on a des salles de cinéma qui montent ce genre de films aussi.
Donc 5 films de la période française.
Arrête de te la péter, Alice, ça suffit.
C'est mon plaisir, hein, de la vie. C'est dans Hobby, sur mon CV.
Et d'accord, du coup, hier... Antoine, toi, c'était la première fois que tu voyais?
Oui, il y a un petit peu plus de 1h45, là, je l'ai vu pour la première fois.
C'est ça. Non, moi je l'avais déjà vu probablement, non, plus jeune que 20 ans, je pense que... Oui, j'étais encore au lycée, je pense. Mais comme d'habitude, hein, sur ciné-cinéma classique, ou un truc comme ça. Ouais, j'ai le souvenir d'avoir eu quand même le truc de me dire... c'est vieux, je ne sais pas si ça me parle vraiment, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, Revision, je trouve que... je trouve que le fait de contextualiser maintenant ce film sur tout ce que je sais aussi sur l'émancipation de la femme et dans l'histoire, ça met pas mal en lumière la façon de penser des années 60 et comment était vue la femme à ce moment-là, et c'est pas mal en fait de pouvoir avoir cette lecture aujourd'hui. Arnaud, tu vas nous expliquer un petit peu, tu vas nous refaire l'histoire en fait.
Non mais qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà c'est un film que j'aime beaucoup. Je crois pas que ce soit mon Buñuel préféré, mais j'aime bien. On pourrait même dire que c'est sans doute un des films les plus normaux de Buñuel.
Alors c'est là où j'avoue que je connais très très mal Louis Buñuel. Donc ouais. C'est vrai qu'à part Le Chien Andalou et donc effectivement le film où il a fait jouer Catherine Deneuve, non, j'ai vu un peu les standards et ses tubes.
Je vais peut-être juste un tout petit peu resituer. Donc en fait, Luis Buñuel, il commence, c'est un cinéaste espagnol qui commence à travailler à la fin des années 20. Et les deux premiers films qu'il fait, il les co-réalise avec Salvador Dali. Et il s'agit de deux films surréalistes qui sont Un chien andalou et L'âge d'or. Et à ce moment-là, le but de ces films, en fait, c'est de faire des films qui n'ont aucun sens et qui ne peuvent pas être interprétés. C'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait quelque chose qui puisse se rapprocher d'un symbole ou de quelque chose du genre, de le supprimer pour que ce soit quelque chose qui ne soit pas absolument pas interprétable. Le but, c'était de faire un truc un peu surréaliste, qui soit une pure pulsion comme ça, qui soit montré. Après, à ce moment-là, en fait, il commence à prendre ses distances avec le surréalisme, même si ça continue à traverser un petit peu toute son œuvre. Et surtout, il part se réfugier au Mexique, parce qu'après ça arrivent les années franquistes. Il s'exile au Mexique, il fait beaucoup de films parlant de la société mexicaine. Il commence à arriver un thème qui va revenir tout le temps dans sa filmographie, qui est une description de la bourgeoisie et surtout du système de classe sociale dans le monde occidental. Et ensuite, il y a une dernière partie de sa carrière qui est la période française, où il va venir en France faire des films, où il rencontre celui qui deviendra son co-scénariste jusqu'à sa mort, qui est Jean-Claude Carrière. Et où il fait beaucoup de ses films les plus célèbres, comme Belle de jour, Le charme discret de la bourgeoisie, ou Cet obscur objet du désir, par exemple. Okay. Et
il a fait jouer beaucoup de comédiennes françaises aussi. Quoi, c'est quand même des...
Ouais, Delphine Seyrig.
Carole Bouquet, Jeanne Moreau. Enfin, je pense qu'il a quand même contribué à une... C'est des films majeurs pour quasiment toutes ces comédiennes. En fait.
Il a vraiment
marqué la filmographie de beaucoup de comédiennes de l'époque.
Et surtout, il y a quelque chose d'assez particulier, parce que c'est toujours, en fait, ce qu'il fait, c'est toujours un petit peu des... entre guillemets, il fait beaucoup de films concept. C'est-à-dire que, généralement, quand tu pitches un film de Buñuel, il y a souvent quelque chose qui s'en ressort, où tu te dis c'est un concept fort pour pouvoir parler de la société. Si on peut prendre l'exemple, je sais pas, un de ces films mexicains que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Ange Exterminateur. Et c'est l'histoire d'une société bourgeoise qui fait la fête et qui se rend compte qu'ils ne peuvent plus sortir de leur maison. Mais pas parce que c'est fermé à clé ou pas parce qu'il y a une raison particulière, c'est juste ils arrivent sur le pas de la porte et ils n'ont pas envie de sortir. Et donc il y a une micro-société bourgeoise qui se crée à l'intérieur de la maison et tout commence à se détruire à l'intérieur. Ou Le charme discret de la bourgeoisie, qui est, je pense, lui, moi, pour le coup, mon Buñuel préféré, où c'est l'histoire de deux couples bourgeois qui n'arrêtent pas de se donner rendez-vous pour dîner et qui n'arrivent jamais à dîner finalement, parce qu'il y a toujours une raison qui arrive, soit c'est la révolution, soit ils se sont trompés d'endroit, ils se retrouvent sur la scène d'un théâtre, soit ils se rendent compte que le restaurant où ils se sont donné rendez-vous est fermé parce que le patron vient de mourir, et en fait, ce dîner est toujours repoussé, et ils n'arrivent jamais à dîner ensemble, et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait repartir, et c'est pour ça que je disais que j'ai l'impression que Belle de jour est presque le plus banal, parce que c'est celui qui a le pitch le plus réaliste. Tu vois ce que je veux dire, même si le traitement du film est pas du tout naturaliste ou pas du tout il y a quelque chose d'extrêmement artificiel comme toujours chez lui, c'est presque son film le plus, c'est pour ça que je disais que c'est presque son film le plus mainstream, peut-être un de ses plus célèbres aussi.
Ouais, mais je pense que dans ce que tu disais aussi d'avoir un concept au départ peut-être d'un scénario, en tout cas des situations très très fortes, je pense que c'est aussi ça qui a lié le fait qu'il a découvert, ou en tout cas qu'il a eu autant d'importance dans la carrière de ces comédiens-là, où ce soit des rôles qu'on on revient toujours, dans tous les comédiens qui ont traversé en tout cas sur cette période-là, des films que tu évoques, quoi, dans les années 60-70, c'est des films qui, dès qu'on évoque le nom d'un comédien, ça va faire partie des 5 film qu'on va retenir pour lui. Je prends l'exemple de Jeanne Moreau qui est morte il y a un mois. Je pense qu'on a beaucoup beaucoup parlé de son rôle aussi dans le film de Buñuel.
Ouais, journal d'une femme de chambre, d'une femme de chambre.
Donc il y a quand même quelque chose qui est très très lié. Il y a le scénario, mais je pense aussi vraiment quelque chose autour d'un comédien et la façon dont il travaille un rôle.
Ouais.
Et vraiment sa mise en scène autour de ce que la comédienne ou le comédien était avant et sera après, quoi. Il y a un avant-après assez saisissant.
On retrouve les thèmes de la bourgeoisie, on va dire de l'oisiveté de la bourgeoisie, mais aussi de la critique de leur... pas de la critique, mais peut-être de l'affirmation que ce ne va pas forcément te rapporter du bonheur d'être dans cette caste-là. Et voilà, et du coup, de la subversivité, bah pour le coup, toi qui dis un avant-après dans la carrière, clairement, moi, je pense qu'il y a eu un petit tournant... Enfin, quoique, c'est vrai qu'elle avait fait Répulsion avant. Donc, pour Catherine Deneuve, bon, elle a navigué un petit peu dans toutes les eaux, mais oui, je vois très bien comment, si tu fais dans la même année Les Demoiselles de Rochefort et que derrière tu te prostitues, tu vois, enfin, dans le film, bien sûr, ça peut effectivement faire comprendre que tu es une actrice de composition à tout le monde.
Mais après, ça, je pense que ça a aussi beaucoup contribué, ce genre de rôle. On parlait de Répulsion réputation, et là, on le voit dans Belle de Jour, Catherine Deneuve, c'est une comédienne qui a la réputation d'être très distante, très froide, mais même si c'est un fantasme mondial, et surtout à ce moment-là où ça commence vraiment à prendre une ampleur assez internationale, c'est quand même des rôles à chaque fois qui laissent, qui vont pas dans une psychologie du personnage, mmh. où on est très à distance, où elle incarne à la fois le fantasme absolu qui nous échappe totalement, puisqu'il n'y a aucun moment où on comprend exactement ce qui se passe dans sa tête, ce qui la motive ouais. réellement. C'est une femme qui affirme finalement un désir, mais qui ne va jamais nous donner l'explication de ce désir et de l'origine de ça.
Et ça, c'est sympa parce que...
Parce qu'en fait les moyennes statistiques, c'est un truc qui n'intéresse pas du tout Louise ouais. Buñuel. C'est-à-dire que quand il va parler d'un personnage, il s'en fout de parler de l'expérience lambda. Mmh. Et par exemple, ici, ouais. Dès le début, en fait, c'est même présenté dans les dialogues, on nous explique dès le départ que elle a envie de se prostituer, mais que en fait la plupart des fans qui se prostituent le font pour l'argent. Oui. Et c'est répété plusieurs fois en fait ça, pour bien nous expliquer qu'il s'agit pas ici d'une expérience lambda ou de quelque chose comme ça. C'est pas ça ouais. qui l'intéresse. Ouais. Et donc ce qui l'intéresse, c'est pas de psychologiser, d'essayer de voir ce qui en moyenne pousse à faire ça. Ce qui l'intéresse en fait, c'est une histoire de pulsion comme ça à l'intérieur qu'il va essayer de travailler. Et il enlève tous les trucs psychologiques, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'elle est malheureuse avec son mari ? Non, elle n'est pas malheureuse avec son mari, elle l'aime.
Il montre à de multiples reprises, dans plein de détails, qu'il y a un amour sincère et une volonté de vivre et de réussir ouais. à vivre avec lui.
Juste, elle a envie comme ça de développer sa sexualité de cette manière-là. Quoi.
En fait, c'est beaucoup plus intelligent parce qu'en fait, si tu réfléchis, tout le film, c'est sur des fétiches et il n'y a zéro... Enfin, il n'y a pas forcément... en fait d'explication tu vois psychanalytique de pourquoi tu as ce fétiche, c'est-à-dire que tu vas voir le client qui va vouloir qu'on le fouette ou qu'on lui marche dessus etc et c'est tout. Et en fait c'est pareil aussi pour elle parce que ouais. et on en revient à la pulsion. C'est d'ailleurs tu vois, c'est pas pour rien qu'on entend pendant tout le film des miaou de chat, tu vois, des miaulements de chat. C'est la pulsion du chat qui sort ça. Bon, on va imaginer après, que c'est probablement une chatte en chaleur.
Le chat dans les films et généralement plus globalement même dans l'histoire, etc. C'est souvent un animal qui symbole. Et là, c'est dur de parler de symbole, effectivement, chez Buñuel, mais qui en tout cas, on peut le retrouver derrière dans la Talente. C'est les femmes sont entourées de chats pour les protéger.
D'accord.
C'est quelque chose qu'on retrouve même en Égypte, dans des choses comme ça. Donc, souvent, même, est très utilisé pour protéger les animaux qui sont là autour de femmes. Voilà, pour c'est ça souvent en fait.
Il y a quelque chose d'assez intéressant au niveau du son dans ce film, c'est-à-dire il y a aucune musique ouais. hein, pendant tout le film.
Le son est très étouffé.
Et le son est étouffé, tout est refait en post-production. Ouais.
Même les dialogues.
Et ouais. Et souvent d'ailleurs, l'ambiance sonore est quasiment silencieuse. Mais en fait, il y a des sons qui reviennent justement pour évoquer. Alors, c'est les clochettes
du chariot,
du carrosse du début qui vont revenir à chaque fois que c'est
du couffin, attention.
Du couffin, excuse-moi.
On parle d'un couffin.
Et à chaque fois qu'il y aura ces sons de clochettes, à chaque fois ça va nous ramener à ces scènes comme ça de fantasmes.
Et oui, ça revient. Je sais pas si vous avez pensé à ça, mais moi c'est pavlovien en fait. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, oui. Puis en même temps, moi je trouve qu'il y avait aussi quelque chose parce que on voit clairement qu'elle elle découvre quand même ces expériences là et elle est inquiète au départ. Elle est forcément, elle est inquiète de ce qui va se passer. Et moi j'ai aussi perçu ces sons comme un peu rassurants pour elle. C'est-à-dire que à un moment aussi, c'est aller vers quelque chose que tu ne connais pas, mais en fond sonore, tu as quelque chose qu'elle ne connaît pas dans l'expérience qu'elle va vivre.
D'accord.
Mais en fond sonore, tu as ces petites choses qui la rattachent à la réalité ou qui la... Enfin, moi, je l'ai perçu comme ça, qui peuvent la rassurer aussi et lui permettre de passer outre son appréhension.
De passer cette frontière de la maison close en plus de sécurité, ouais, peut-être. Ouais.
Je ne sais pas, enfin, je l'ai perçu comme ça,
Il y a quand même clairement pas mal de choses qui me gênent quand même dans le jeu de certains acteurs, notamment par exemple le jeu de l'acteur qui joue par exemple Marcel
ouais.
Mais aussi en fait dans la création de leur soi-disant amour en fait entre elle et lui, ou en tout cas ne serait-ce que dans la création de son attirance pour lui, tu vois, en fait
ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Enfin, en fait,
après probablement que c'est peut-être totalement ma vision de 2017 de qui voit Marcel, enfin l'acteur qui jouait Marcel, et qui me dit ce mec est pas du tout attirant, mais que très probablement, en tant que bad boy des années 60, ça marche très bien, tu vois ce que je veux
oui,
dire.
C'est sûrement, on n'a pas les codes de la société.
Il a déjà un côté décalé, la manière dont il est attifé, on dirait vraiment qu'il sort d'un poème de Baudelaire, quoi. C'est genre le mauvais garçon du 19e, presque, tu vois.
Il a des côtés aussi un peu Gestapo, quand même, avec son long manteau de cuir noir, enfin, c'est vrai.
On parlait de fétiche, il y a quand même un truc autour des pieds sur ce film, hein, je veux dire, entre Catherine Deneuve, ses chaussures,
les chaussettes trouées de Marcel.
Les chaussettes trouées de Marcel, les bottes, elle dit j'aime beaucoup tes bottes. Je pense qu'il y a quand même y a beaucoup de choses autour des pieds quand même. Et je pense qu'une des choses qui l'attire le plus chez lui, que je veux dire, quand elle voit les bottes quand même de Marcel, il y a un moment où ça révèle quasiment quelque chose sur lui. J'ai l'impression qu'une fois qu'elle lui a dit t'as de très bonnes bottes, c'est comme si elle trouvait quelque chose de beau chez lui, alors qu'effectivement il a suffisamment.
Après, je suis d'accord que j'ai compris, si tu veux. J'ai compris que le réalisateur veut me dire qu'ils sont ensemble, tu vois, presque, avec Marcel. Mais je l'ai pas ressenti, tu vois. Genre, j'ai pas. À aucun moment, je me suis dit, tiens, elle pourrait être attirée par.
Et aussi, c'est une femme qui ne juge pas le physique des hommes. On le voit tout de suite après le client. D'ailleurs, il y a une grande importance dans le casting et dans l'évolution des clients. C'est que aucun d'eux ne correspond à un critère de beauté. Je pense que, limite, ils sont à deux doigts du dégoûtant de ce qu'on pourrait.
Et probablement, en même temps,
il y a ce gros monsieur vendeur.
Là, statistiquement,
quasiment un peu vulgaire.
90% des vrais clients, quoi.
Surtout les trucs d'attirance dans ce film, c'est vraiment un truc de classe. C'est-à-dire que elle, dans ses fantasmes, ce qu'elle rêve, c'est d'être humiliée par des gens qui sont pas de sa classe sociale, par des gens qui sont des classes populaires. Et en fait, ce qu'on répète tout le temps à propos de Belle de Jour dans ce Lupanar, c'est « Ah, vous verrez, c'est une vraie aristocrate. Ah, vous verrez, elle a du maintien et tout ça. » Et ce qui attire les clients qui arrivent ici, c'est qu'ils ont envie de se taper une bourgeoise, quoi. Exactement. Et c'est pour ça qu'elle est toujours choisie par rapport à ses collègues. C'est ce qui est dit en permanence. Ouais. Ses collègues sont toujours ramenés au fait qu'elles viennent de classes populaires, et elle est toujours dans ce truc de supériorité
c'est l'essence même du fantasme, c'est-à-dire de la chose que tu n'as pas d'habitude, en fait, c'est-à-dire que ce soit pour le client ou pour elle.
Et tout le monde y trouve son compte. Ce que dit Michel Piccoli dans une superbe scène, c'est à un moment, il va dans ce Lupanar, il se rend compte donc que Catherine Deneuve, qu'il connaît dans la vraie vie, se prostitue ici.
Il a essayé de la draguer, quoi. Il voulait vraiment se la faire quand même.
Il a essayé plusieurs fois de la draguer, il y a fait des avances, et là. Il finit en fait par pouvoir coucher avec elle, puisqu'il l'a choisi pour coucher avec. Et là, il lui dit, ben en fait, j'avais envie de vous quand vous étiez inatteignable, mais maintenant que je me rends compte que vous êtes une prostituée, j'ai plus du tout envie. Et en fait, c'est toujours ce truc de classe. Pour lui, c'est vraiment un truc de conquête. Et si c'est pas possible d'atteindre cet impossible, alors ça l'intéresse plus, quoi. Et même tu vois, sur la présence de ce fantasme, on en parlait avec Alice en sortant du film, parce que ce qui est intéressant, même, tu vois, sur la sexualité dans ce film, c'est il y a aucune scène de sexe.
Oui, ça, on la voit pas, effectivement. D'ailleurs,
oui, tout est suggéré
d'ailleurs, c'est marrant, mais la première chose qu'on s'était dite quand on avait vu la première scène, dès qu'elle prend le premier client, le fameux gars qui a des usines à Bordeaux, blablabla, c'est qu'on ne voit même pas l'après, et pour un film récent, on s'attendrait par exemple à la voir sur le lit, avoir un gros plan sur son visage et voir une certaine expression ou quoi que ce soit, alors que là non, on la voit directement en train de remarcher chez elle, et il y a un parti pris qui est quand même assez cool.
Il y a quelque chose où elle a souri, c'est-à-dire que même quand tu vois la construction de ce film, c'est-à-dire on commence, la première scène du film, c'est un fantasme de sa part à elle, où elle a envie d'être humiliée et après elle se refuse à son mari, dans une scène où on se rend compte qu'ils sont mariés depuis un an mais ils font lit à part d'ailleurs.
Ouais.
Pour bien montrer en fait ce qui se passe
dans des lits d'enfants.
Ouais.
En fait, dans un scénario construit de manière traditionnelle, on se dit l'aboutissement, c'est qu'elle va se faire frapper, elle va se faire fouetter, elle va aimer ça, tu vois, il va y avoir un truc ou pas d'ailleurs, ou se rendre compte que pas du tout, elle va être, mais il va se passer quelque chose de ce genre. Et dans ce film, pas du tout, c'est-à-dire que même il y a un moment où Marcel s'apprête à la frapper, et à ce moment-là, vraiment, elle prend les choses en main et elle a dit si tu fais ça, tu ne me revois plus jamais. Et Marcel arrête.
Ouais. Elle sait utiliser
maîtresse d'elle-même et de la situation.
Et on tombe pas dans le truc facile, en fait, comme ça, tu vois.
Non, on tombe pas surtout dans... Elle est jamais victime de ce qu'elle est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle va dans ce lieu de rendez-vous. C'est un appartement tout à fait banal, en fait. Il y a que trois filles qui travaillent. Madame Anaïs, elle la laisse complètement libre. Elle est très bien, mais elle la laisse complètement libre de ses horaires. Bien sûr, elle a envie, quoi, c'est une bonne travail, quoi, elle ramène des clients, les clients sont contents, mais elle n'insiste pas si elle veut partir, quoi. Elle fait finalement, elle est très libre. Il y a pas de pression, en fait. On tombe jamais dans un.
Prostituée freelance, quoi.
Ouais.
Non, c'est en fait ce que devrait être Fifty Shades of Grey, en fait. Il y a un truc, tu vois, comme ça de.
Mais elle est jamais, en tout cas, manipulée ou prise au piège, etc. Elle est complètement. Catherine Deneuve reste quasiment jusqu'à la fin dans le contrôle de ce qu'elle est en train de faire. Ça dérape sur un client.
Et même les moments, tu vois, où ça. C'est-à-dire qu'il y a une scène assez célèbre dans le film, c'est le client japonais.
Ouais.
C'est-à-dire que d'abord, quand on nous le présente, il y a une première prostituée qui refuse de coucher avec lui parce qu'il a l'air de vouloir faire des trucs un peu dégueulasses, en fait.
En tout cas, il ouvre une boîte, il y a une
prostituée qui regarde et qui fait « Oh non, moi je fais pas ça », ouais. Et qui s'en va. Catherine Deneuve accepte. Et en fait, comme d'habitude, il coupe la scène de sexe. La femme de ménage rentre pour nettoyer, on voit du sang sur un drap, on se dit qu'il s'est passé quelque chose d'un peu violent. Elle est presque, on dirait, un cadavre sur le lit, tu sais, comme ça, on se dit ça a dû être violent. Et en fait, après, il y a un plan sur Catherine Deneuve qui se lève, et là, elle relève son visage, et il y a une espèce de truc d'extasie sur son visage, genre, il s'est passé, tu vois, c'est-à-dire, il coupe toujours
le truc.
Adoré. C'est-à-dire, c'était pas dégradant ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle voulait, en fait, tu vois.
Mais même avant la scène, enfin, même avant de coucher avec ce mec, tu vois sur son visage, elle lui sourit, elle lui dit, allez, c'est bon, arrête, t'es si magré, on commence, quoi. Enfin, elle a l'air d'être totalement, d'avoir envie de ce qui va se passer, quoi.
Mais en fait, c'est ça aussi le truc le plus important, mais encore une fois, on en revient au. C'est un film sur les fétiches, dans le sens où tu es de toute façon sous contrôle de tout ce qui va se passer, parce que c'est un accord entre deux personnes, et quoi qu'il arrive, je n'en serai jamais la victime. Et d'ailleurs, même quand ça va pas, parce qu'avec tout ce qui se passe avec Marcel et son mari, en fait, elle n'en est pas la victime, en fait. C'est-à-dire, son mari en est la victime, Marcel en est la victime, mais pas elle. Elle a continué à toujours être sous contrôle d'elle-même et de son corps, en fait.
Oui, mais c'est... Parce que Marcel a essayé de la contrôler, à un moment donné, il passe de l'autre côté du miroir quasiment, il veut la sortir de ce qu'elle maîtrise, donc elle dit de 2h à 5h, je peux être grosso modo ce que tu veux. En tout cas, je suis dans ce rendez-vous et j'ai des clients, mais en dehors de ça, je veux retourner voir mon mari, c'est hyper important, quoi, elle a pas du tout... Et Marcel, il essaye de sortir de ça.
Ouais.
Et à sortir de là, et à ce moment-là, ça dérape, parce qu'effectivement, c'est lui qui devient la victime de ce désir, en fait.
En tant que symbole, la fin des deux protagonistes masculins est assez forte, en fait, parce que Marcel, si tu essayes de contrôler le corps de la femme, en fait, tout ce que tu mérites, c'est la mort, tu vois. Et de l'autre côté, la vision classique maritale, c'est le coma, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est accepter d'être une sorte de légume pour le reste de ta vie, quoi.
Elle a pas envie qu'on la mette comme ça, parce que c'est vraiment la représentation de la femme, c'est-à-dire elle a pas envie d'être mise sur un piédestal. Ce que fait Pierre, il la traite comme une espèce, tu vois, de.
Tous les hommes qui la rencontrent, comme tous les hommes qui la rencontrent, à part les clients.
Ouais.
Sinon, elle est mise sur un piédestal. C'est Catherine Deneuve, au départ du film, on nous fait comprendre que c'est la femme ultime, c'est-à-dire éduquée, magnifique, elle fait un beau mariage, bonne société, elle est mariée à un médecin, quoi, c'est la perfection incarnée, en fait. Et Piccoli le voit tout de suite, et le personnage de Piccoli, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a 4 scènes dans le film. Mais ce qu'on se disait tout à l'heure avec Arnaud, c'est que
comme pas possible, mec.
Ça devient un protagoniste. Quoi. Je pense qu'on se souvient de lui, de Catherine Deneuve, sur la durée, en fait.
Ah oui, parce qu'il est génial. Il est génial à chaque fois qu'il arrive.
Surtout,
quoi.
Il a un
charisme de fou.
C'est un super comédien. Puis en plus, les 4 répliques qu'il a sont assez justes et à chaque fois très révélatrices de ce qui est en train de se passer. C'est toujours avancer le scénario, en fait.
Ouais, mais parce que c'est le seul personnage honnête. C'est-à-dire, il dit tout ce qu'il pense. Il dit tout ce qu'il pense. Et ça peut être très très violent. C'est élégant. Et violent, ouais. C'est
ultra sexy. Je pense que c'est le personnage le plus sexuel du film. Finalement, c'est pas du tout Catherine Deneuve, c'est Piccoli.
Je pense que c'est le personnage le plus féministe du film aussi, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, à part le personnage masculin le plus féministe.
Ouais, ça je me serais pas aventuré.
Pour deux autres, franchement, je sais pas. Ce qui m'a gêné là dans la revision, c'est qu'effectivement. Les ficelles ultra grosses de Marcel, de son comparse bandit, etc., et du drame au final, bon bah voilà, tu le vois arriver assez
après
assez
tu le sais avec tes yeux de d'homme du 21e siècle qui a l'habitude de voir des
tu vois, enfin il y a des thrillers, des choses comme ça des années 60 qui
c'est surtout que c'est pas c'est-à-dire
pas l'important, c'est peut-être pas ça qui est le message principal
je
du
sais,
film
mais ça oui.
C'est-à-dire qu'il y a une artificialité complètement assumée et dans toute l'œuvre de Buñuel c'est ça quoi, c'est-à-dire c'est toujours le théâtre des choses, il veut jamais montrer quelque chose qui soit naturaliste, quelque chose qui soit réaliste. Donc là, il utilise la grosse ficelle des bandits.
Il y a un jeu, même le jeu des acteurs est très saccadé aussi.
Ouais, c'est bizarre. Mais après, peut-être qu'à cette époque-là, c'était la façon de jouer aussi, tu
vois. Non, pas forcément. Ça dépend totalement des...
En plus, c'est tourné en France, donc le coût de la post-production, c'est quelque chose qu'on sait. En tout cas, à cette époque-là, on sait faire du son direct et du très bon son direct France.
Ah, même la post-production, c'est la mode en Italie en ce moment, pas du tout en France.
Voilà, exactement, c'est vraiment...
On est vraiment dans le son direct, dans la nouvelle vague, à ce moment-là. Enfin, c'est, il va l'opposé de tout ce qu'on fait d'habitude, quoi.
Donc le fait, moi, je pense que c'est justement pour casser... Le fait de mettre des voix... pourquoi on fait pas de post-production, d'ailleurs? Pourquoi, généralement, les réalisateurs craignent ça? C'est parce que, justement, ça casse l'émotion d'une scène. À partir, on dit qu'il faut rester dans l'énergie, il vaut mieux accepter un élément sonore derrière qui n'est pas tout à fait juste, mais garder l'émotion, la fraîcheur du plateau, en tout cas la vérité du plateau à ce moment-là. Et quand tu refais en post-prod, une fois sur deux, les voix qu'on refait en post-prod, finalement, le réalisateur, ou en tout cas la réalisatrice, les garde pas parce que ça perd un peu justement d'intensité, en tout cas ça perd d'émotion. Et là, il refait toutes ces voix comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de neutre, un texte qui est justement qui est coupé au maximum. D'une émotion, d'une quelconque volonté de psychologisation
c'est ça.
Du texte, quoi.
Et montrer cette artificialité de la société bourgeoise aussi. C'est-à-dire que les 10 premières minutes du film, elles sont assez désagréables à cause de ça. C'est-à-dire que c'est des gens qui se voient et qui n'ont pas envie de se voir.
Ouais.
C'est la scène au ski, on a rendez-vous avec ce couple, non, j'ai pas envie de les voir, tu vois ça. Et en plus, t'arrives, ils ne se disent que des banalités avec des voix refaites, avec un silence assourdissant, avec.
Comme si on pouvait dire, la seule chose naturelle, c'est ce que tu vois pas, c'est le sexe. En fait. Tu sais, la scène où à un moment elle va chez un duc pour jouer un cadavre, en fait, tout simplement. Un cadavre, on le comprend. De probablement la fille de ce duc voilà, qui veut faire un espèce de rituel. Au début, je pensais qu'il allait faire un rituel satanique, tu vois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc particulier. Parce que là, pour le coup, elle ne fait pas d'acte sexuel, par exemple, à ce niveau-là. Ça relève presque de la performance d'actrice, quoi, tout simplement.
Le duc se masturbe au pied du cercueil, quand même.
Ah oui, lui, oui.
Et je pense qu'elle était pas censée le voir ou se réveiller ou un truc comme ça, parce que
peut-être,
vu
parce
la façon dont elle est conduite à la fin, c'est assez violent.
On nous avait un petit peu donné le petit début de ça avec le chirurgien, je crois, qui était venu, et justement, voilà, celui dont je parlais tout à l'heure, qui voulait se faire fouetter et marcher dessus, où en gros, il fallait jouer son rôle de marquise.
Entrer dans son jeu et l'humilier. Ouais.
Et en fait, j'ai pensé à un truc que j'avais vu récemment, je sais pas si vous avez lu un article de John Ronson récemment dans le Guardian qui s'est immergé dans le monde du porno, où il y a quelque chose qui se crée de plus en plus qui s'appelle le custom porn maintenant, où en gros des gens envoient quelques milliers de dollars à Pornhub, qui est maintenant devenu une boîte de prod aussi, pour tourner des choses spécifiques et parfois pas du tout pornographique, en fait. Juste certaines choses pour assouvir à eux leur désir. L'exemple dans l'article, il y avait des exemples assez ouf de voir une pornstar habillée, mais qui était dans une cuisine, à chasser une mouche avec une tapette à mouche, par exemple, tu vois. Et c'est tout. Et bon, ça va de ça à, genre, avoir vraiment presque une grosse production avec des vannes qui explosent ou des choses comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui se crée, mais qui forcément fait partie d'une espèce de sexualité qui, on l'imagine probablement, et chez la personne qui le demande, quelque chose de caché, de toute façon, on rentre dans le fétiche. Et je trouvais ça assez drôle de voir ça, où c'était clairement une performance live qui, c'est vrai, se rapproche plus de la prostitution. Et maintenant, on le fait simplement, mais avec des écrans interposés, tu vois.
Mais c'est surtout ce qui est marrant avec ce truc que tu dis de spécificité. Il y a plein de fétiches très spécifiques aussi dans Belle de Jour. Et je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant chez Buñuel. C'est ce que je disais au début, c'est ce truc que il y a pas de généralité, il y a que du particulier. Mmh. Et si on prend d'autres, on en parle un petit peu, mais il y a notamment un réalisateur français qui se veut un peu héritier de Buñuel, mais qui on trouve arrive pas forcément. C'est François Ozon qui reprend un petit peu ces mêmes ces mêmes thèmes. C'est-à-dire quand tu vois un film comme Jeune et Jolie ou dernièrement, comment il s'appelait son dernier film là? Machin double, mon jumeau, mon jumeau, ma femme et moi, là, je sais pas quoi.
Ah oui,
l'amant double.
L'amant double.
L'amant double, ouais.
Mais en fait, il y a quelque chose, c'est chez Ozon, quand je vois les films, j'ai l'impression qu'on retombe toujours sur des généralités.
En fait, Ozon a la même obsession, il est un peu l'héritier effectivement d'un Chabrol Buñuel, c'est-à-dire que la bourgeoisie l'intéresse énormément, particulièrement les femmes bourgeoises. Mm-hmm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même globalement dans toute sa filmographie. Et dernièrement, effectivement, la sexualité de ces femmes. Il y a une vraie chez Ozon, et c'est une piste qui creuse et qui continue à. Donc, effectivement, quand on revoit Belle de Jour, on pense forcément, et Arnaud, à juste titre, en sortant de la salle, il a fait, mais on voit du Ozon là-dedans. Mais là où ça est brillant chez Buñuel, c'est qu'il comprend en tout cas qu'un des mécanismes de la sexualité féminine qui est en tout cas, il va nous parler de comment le désir, quoi, c'est quelque chose de très intellectuel aussi. Quoi. Il va nous parler de ce qu'il y a autour et pas du tout de la scène sexuelle, de l'acte. Et,
rien n'est érotisé, rien c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas d'érotisme dans Belle de Jour.
Il va plutôt
jour,
analyser ce qu'il a fait, comment finalement son milieu social la bride sexuellement et ce qu'elle va faire pour justement réussir à atteindre une sexualité, tu vois, qui lui manque, etc. Donc là, bah, pour le coup, elle trouve la prostitution parce que c'est le seul moment où justement elle n'est plus objet de désir et sacralisé. Elle peut enfin se libérer parce que elle obéit. En tout cas, elle va incarner le désir de quelqu'un d'autre, voilà, et participer à ça. Mais du coup, il y a une sorte de partage là-dedans. Et Ozon, au contraire, il va prendre des femmes soi-disant frigides et dont le seul accès au plaisir est finalement un pénis. Voilà, grosso modo. C'est à peu près comment je peux résumer.
Et avec ce truc, c'est-à-dire que tous les.
Ouais, pour le coup,
c'est très mécanique.
Toutes les choses que Buñuel évitait, Ozon tombe dedans. C'est-à-dire dans Jeune et Jolie, par exemple, il y a un client qui la viole, qui la frappe, et finalement, il reste, il nous montre ça. Elle se défend pas du tout, en fait, même si elle en a pas envie. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui est.
L'argent, quoi. La Deneuve est complètement. On exclut l'argent. On exclut l'argent, alors que chez Ozon, c'est très très présent. Et même dans le dernier, hein, dans l'amant double, il y a encore quelque chose lié à l'argent qui est très très fort. Quand elle paye son.
Ce film, il est féministe dans le sens où, par exemple, Catherine Deneuve, en fait, elle est prostituée parce que c'est sa seule façon d'être cliente. En fait, s'il avait existé des bordels pour hommes, pour femmes plutôt, elle serait peut-être aussi allée là, mais le contexte de sexisme de la société fait qu'en fait, elle y va aussi en fait pour consommer. Elle consomme sa sexualité en fait.
Ce qui est marrant, c'est la manière dont il insiste sur le fait que elle ne peut. C'est un tabou dans la société dans laquelle elle évolue. C'est-à-dire que au début, la première fois, on lui dit qu'il y a une femme qu'elle connaît qui se prostitue et pendant longtemps, elle fait mais c'est horrible. C'est la chose la plus horrible que j'ai jamais entendue. Et c'est comment elle peut faire ça. Et elle le répète tellement trop que tu te dis il y a quelque chose derrière et elle arrête pas de le répéter comme ça pendant 5 minutes peut-être avec ce truc comme ça, c'est très
tu te dis bon on a lu le synopsis, on sait que tu vas le faire dans 15 minutes
mais après c'est j'avais lu à une certaine époque des articles sur les différents types de fantasmes etc, le fantasme de la prostitution et au-delà de ça même du viol est un fantasme réel hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avec leurs compagnons ou compagnes, etc., vont se mettre en scène pour justement vivre ce genre de choses. Alors, voilà, totalement, parce que, bon, bien entendu, elles ne vont pas se mettre en danger ou en réelle position d'eux. Mais n'empêche que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment aussi. Ce n'est pas non plus tomber de nulle part et complètement incongru, quoi.
Comme, d'ailleurs, en fait, si tu réfléchis, clairement, tous les fétiches que tu vois dans le film, que ce soit la prostitution, la soumission ou même les pieds, je pense statistiquement c'est les trucs les plus après forcément il faut en parler quoi, c'est-à-dire que dans les années 60 sortir ça
c'était plus l'époque de ça qui est intéressante que finalement le type de fantasme lui-même parce que c'est peut-être très osé à cette époque-là, je sais pas,
je pense que le plus sulfureux quoi, j'ai l'impression que le plus sulfureux dans ce film c'est pas tellement ce qu'elle l'acte sexuel parce qu'il est déjà il est jamais montré puis on sait pas vraiment à part effectivement par ces flashbacks, mais dans ces flashbacks, moi ce que je lis surtout, et ce que disait Arnaud tout à l'heure, c'est la volonté de sortir de sa classe, quoi, d'être puisqu'elle va chercher des gens qui sont plats de sa classe sociale, donc c'est le plus sulfureux, c'est une femme qui transgresse un tabou social. Mmh. Et finalement, il n'y a rien d'érotique dans ce film. tu me posais la question
c'est pas la prostitution, c'est le fait que ce soit une bourgeoise qui se prostitue.
Exactement, on insiste sur le fait que ce soit une bourgeoise qui se prostitue et qui d'elle-même accepte de coucher avec des hommes qui ne sont pas de sa classe. Et c'est ça qui, alors que c'est censé être quelque chose de sacré et qui ne devrait d'ailleurs être qu'avec des gens à sa hauteur, donc des Piccoli ou son mari qui est médecin, etc. Donc le fait même qu'elle accepte et qu'elle continue de coucher avec des hommes qui n'ont pas de sa classe, je pense que c'est ça le plus grand tabou du qu'aborde le film. Et qui le
Piccoli lui-même, dans la scène du ski au début, tout ça, à un moment, il sort « j'aime le prolétariat », mais tu sens que, justement, dans sa phrase, c'est censé être subversif déjà, donc forcément, si en tant que bourgeois...
Mais il aime dominer. Oui, voilà.
Mais tu n'es pas censé l'aimer vraiment, tu vois, bah, forcément, elle va vers là-bas, elle va le transgresser, ce qui est interdit.
Et c'est lui qui finalement détruit ça, qui à la fin révèle le poteau rose à son mari, c'est-à-dire il y a une scène assez géniale où Michel Piccoli arrive, et avant de le dire à son mari, ça va pas être une surprise, il décrit lentement à Catherine Deneuve ce qui va se passer, ce qu'il va lui dire. Et il prend beaucoup de plaisir à faire ça.
Ouais.
Il est assez pervers quand même comme personnage aussi. Il aime bien faire souffrir la personne face à lui.
C'est un justicier pervers totalement. Mais bon,
justicier.
D'ailleurs, il le dit à la fin.
Une
fois que je lui aurai révélé la vérité, là on pourra dire que je suis cruel.
C'est ça. Ouais. C'est que ça, c'est, de toute façon, ça, c'est, il a jamais montré comme ami. Et le seul moment où il arrive et il fait quelque chose qui pourrait être un tant soit peu amical, c'est-à-dire révéler à son ami que bon bah sa femme n'est pas ce qu'il croit. C'est pour son pur plaisir, en fait, il le dit.
Il le dit,
ouais. Et d'ailleurs, il le met en scène. C'est pour ça qu'on a cette scène qui est géniale de répétition avant. Il répète la scène devant Catherine Deneuve pour vraiment lui.
Oui, oui.
Il n'y a pas l'idée de protection.
Il demande d'ailleurs est-ce que vous voulez assister, tu sais, en mode exhibitionniste, tu vois. C'est son fétiche à lui, c'est la perversion psychologique, en fait.
Encore une fois, c'est là où il prend du plaisir sexuel et la scène n'est pas montrée.
Exactement.
C'est toujours le principe du film.
J'ai perçu aussi peut-être un peu de jalousie de la part de Piccoli par rapport à Pierre.
Forcément.
Qui dit oui, ce boy scout qui tout réussit, etc. Enfin,
oui.
Presque tu peux te poser la question de ce qu'il a pas tendu le piège dès le départ pour tout fiche en l'air et
le moment où il se rend compte qu'il y a une possibilité et qui dit et qui donne à Catherine Deneuve l'adresse exacte
mine de rien comme ça.
Juste pour revenir à Michel Piccoli, effectivement, mais c'est assez drôle de l'avoir choisi lui, qui est aussi un des acteurs les plus importants de cette époque là et on le choisit pour faire un second rôle, ce qui est clairement quoi. Je pense que un acteur j'ai 4-5 scènes. Pourquoi c'est pas lui le mari? Pourquoi on le met pas dans le rôle du mari? Pourquoi clairement il y a quelque chose et on prend Piccoli qui est cet homme comme ça qui est quand même quasiment en tout cas il est sur la vague ultra ascendante de sa carrière et donc voilà, et quand il vient, c'est des scènes ultra importantes, c'est lui qui apporte moi je trouve ça absolument brillant la manière dont Buñuel se sert du comédien et de tout ce qui l'entoure dans le film, en fait. Il y a une vraie aussi perversité de Buñuel à faire se rencontrer Catherine Deneuve et Piccoli. D'ailleurs, on parle toujours de Piccoli. Ouais. Quand on arrive, c'est des personnages on l'appellera jamais Monsieur Husson ou Séverine. C'est Piccoli et Deneuve qui se maltraitent mutuellement. C'est assez dingue. Et on parlera toujours du mari de Catherine Deneuve. C'est très très fort chez Buñuel d'arriver à se servir autant et aussi bien de ce que le comédien, de la charge du comédien avant le film, en fait. Je trouve qu'il arrive à créer des tensions avec ça absolument saisissantes.
Oui.
Et juste pour rajouter encore à...
Tout ça pour dire que j'aime aussi très fort Michel Piccoli.
D'accord. Enfin, tout le monde l'aime, franchement. Juste pour rajouter à l'imagerie de la lutte des classes un peu dans ce film, c'est le fait qu'à chaque fois, dans le monde onirique de Catherine Deneuve, ce soit toujours des choses très aristocratiques qui se passent. Forcément le couffin et les duels, par exemple, etc. On rentre dans un
même
monde...
Même jeté debout, et je trouve assez bourgeois, quoi.
Oui, oui. Non mais c'est vrai, tu sais, tu sens la punition du cerf un peu.
Elle reste hyper digne, tu sais, elle ferme un peu les yeux comme ça, reçoit de la boue au visage, c'est magnifique.
Combien vous mettriez de miam pour ce film? Alice, on va commencer par 6.
Moi j'ai mis 4...
Pardon.
Par moi. Moi, j'y mettrais 4 macarons. Je pense que ce film mérite des macarons plus que des burgers, d'ailleurs.
Et du coup, Arnaud, voilà. Ah, tu disais un 4,5, toi ? C'est ça que tu disais ?
Ouais, 4,5, ouais, j'y mets, ouais.
Moi, je suis sur du 3,5.
Ouais. Je viens de mettre la même note que Showgirl, quoi.
Que ?
J'ai mis la même note que Showgirl, je sais pas
ce qu'il y a. Bah oui.
Là, par contre, Showgirl, c'était des 4 burgers, par contre. D'accord. Avec des frites, surtout. 4 barquettes de frites. et moi, je crois qu'on est dans les 3,5 pour moi. Ouais, voilà. Parce que pour les petites choses que j'ai dites aussi. Est-ce que vous avez le temps, rapidement, qu'on puisse se regarder une petite page de Sharky, ouais, Blu-ray du mois d'août, que je vais juste vous envoyer.
Ouais, et tu nous envoies le lien.
On va en discuter. Tac. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour dire que nous, on a vu Belle de jour en Criterion Collection en Blu-ray. Et c'est une très belle édition, comme toutes les Criterion Collection. Donc voilà, si vous êtes intéressé par voir ce film pour savoir exactement de quoi on parle.
C'est pas Carlotta qui sort C'est pas Carlotta qui a sorti le DVD,
ils font. Non, mais ça, c'est l'édition américaine, du coup, Criterion.
Ouais, j'ai vu l'édition américaine.
Donc tu prends l'édition américaine pour...
Mais Carlotta, je suis sûr qu'ils ont fait du bon boulot, ouais. Ils font toujours du bon boulot à France aussi.
On peut mentionner quand même Carlotta qui ressort le film et qui a fait une très belle restauration et qui va sûrement faire une sortie DVD.
Mais je dois avouer que là, vraiment, sur les distributeurs qui sortent les vieux films, j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle mode de l'été de ressortir, en fait, comme ça, des films graphiques.
Mais d'ailleurs, la dernière qu'on était allé voir, c'était aussi Carlotta qui l'avait ressorti, parce que c'est eux qui ont ressorti le lauréat.
Ah ben oui.
Ouais, ils font
il y a eu des très belles ressorties cet été, donc voilà, j'ai envie de...
Je venais à Paris l'été.
D'accord.
Pour regarder des films qui sont très bien ressortis. Et donc là, c'est des Blu-ray, c'est ça?
Ouais. Oui, ou des DVD, ou des VHS, ce que tu as chez toi, quoi. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous choisiriez donc en août 2017 comme Blu-ray à acheter ce mois-ci? Vas-y, tu peux commencer, Antoine.
Le Django avec Reda Kateb, parce qu'il y a un film biopic, je l'ai vu au cinéma, il m'avait bouleversé ce film. Un biopic sur une partie de la vie de Django Reinhardt et j'avais adoré. The Circle, que j'aimerais bien voir, donc pas encore vu, donc voilà, comme ça me permettrait de le voir. Ouais. Et puis après j'ai vu qu'il y avait une sortie, il y avait un coffret de tous les aliens.
Ah oui, donc avec ça, Alien Covenant aussi. Ouais,
donc ça, pourquoi pas. Et enfin, I'm Not Your Negro, parce que je l'ai pas vu non plus, j'avais envie de le voir.
D'accord. Okay. Alice.
Oui, alors en Blu-ray, moi je choisirais donc The Wedding Banquet de Ang Lee, qui est donc le premier film que j'ai vu de Ang Lee, mais visiblement pas son premier film. C'est
deuxième apparemment.
Apparemment son deuxième. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué en fait quand je l'avais vu, et ce qui fait que j'ai suivi Ang Lee par ailleurs dans la suite. Et en tout cas, je trouve que c'est, quitte à se faire une soirée DVD à la maison, je pense que c'est plutôt le film parfait pour ça, donc j'achèterai ça. Et sinon j'ai vu qu'il y avait aussi Après la tempête de Kore-eda, et qui est, je pense, un de mes films préférés de l'année. Donc voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, achetez-le. Okay. Voilà.
On a fait un épisode sur celui-là, donc vous pouvez l'écouter si vous voulez.
Et vous pouvez écouter le podcast sur Après la tempête.
Tout à fait.
Donc, ouais, du coup, moi, je vais choisir Invasion Los Angeles de John Carpenter, qui est, je pense, mon film de Carpenter préféré. C'est un film pas du tout subtil, qui va avec des gros sabots, mais qui est un des films, je pense, les plus jouissifs jamais faits. Et comment décrire ce film? En fait, pendant 20 minutes, ça commence comme un Ken Loach, où on suit la vie d'un ouvrier journalier dans le bâtiment et ses difficultés à vivre en Californie. Et un jour, en fait, il tombe sur des lunettes de soleil qui permettent de voir, en fait, ce qui a été fait par des extraterrestres dans notre monde. Et il se rend compte que notre monde est dirigé par des extraterrestres. Et il va se décider, en fait, à exterminer le plus d'extraterrestres possible. Et sur le chemin, il va essayer de convaincre un de ses amis de travailler avec lui. Pour ce faire, il veut lui mettre sur le nez ses lunettes de soleil pour qu'il se rende compte que les extraterrestres dirigent le monde. Son ami veut pas, et là vient une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma, une scène d'anthologie, une scène de combat qui va durer 9 minutes 30, durant lequel le héros va essayer de mettre les lunettes de soleil sur son ami.
C'est trop bien, tellement génial.
Et en fait, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma, c'est du cinéma de genre, mais qui essaie de dire quelque chose, qui le fait de manière jouissive, avec énormément de second degré et avec cet amusement qu'on retrouve beaucoup chez Carpenter. Et pour moi, c'est tout le meilleur de sa filmographie dans ce film, quoi. C'est un chef-d'œuvre, j'y mets 5 miams là. Hein. Là, on fait péter les.
Ouais, non, mais là, c'est du 6 miams pour moi, c'est sûr. Bah ouais, moi, je choisirais la même chose parce que surtout que, en fait, il manquait le Blu-ray. Parce que là, en l'occurrence, c'est quand même une édition américaine, mais au moins elle est propre. Parce qu'il n'y avait qu'une édition italienne, je crois, de Blu-ray de The Live et que j'avais assez longuement hésité à acheter parce que. Genre ça coûte 45 euros, mais qu'il n'y a pas de sous-titres français, je crois. Donc si tu veux le montrer à des potes, voilà. Donc c'est un peu chiant. Mais là, donc enfin, il y a ce qu'il faut. Donc ouais, je choisirais ça.
L'italien, le français, quoi. Tu rajoutes des A et puis c'est bon. Hein.
Ça va, c'est pareil. Je choisirais ça et je choisirais aussi le film Colossal. Un film avec Anne Hathaway que j'ai pu voir récemment et qui m'a totalement surpris. Je ne m'attendais pas du tout à voir un tel
Attends,
film.
Mais deux secondes. Est-ce qu'il s'agit bien du film qui est sorti qu'en VOD en France, c'est ça ? Je ne l'ai pas encore vu.
Exactement, ouais. De Nacho Vigalondo.
Vigalondo.
Et en fait, ça parle d'une jeune New-Yorkaise qui, en gros, se fait plus ou moins jeter par son petit ami qui va retourner dans sa maison de campagne et qui, lors de ses petits accès de dépression slash... d'alcoolique et à chaque fois qu'elle a des trous noirs en fait après être partie au bar, ce qui se passe c'est que de l'autre côté du monde à Séoul, il y a un monstre qui fait exactement les mêmes mouvements qu'elle quand elle était bourrée la veille en fait. Et du coup, qui détruit des quartiers de Séoul, etc. Et c'est le comment elle va s'en rendre compte et ce qui se passe après. Il faut savoir que ce film a plusieurs tons dedans et que c'est excellent. Vraiment, pour le coup, moi, parce qu'il va compter, du coup, je pense, en France pour 2017, parce qu'il est sorti qu'en 2017 en France. Et clairement, pour l'instant, il fait partie de mon top 10 2017. Voilà, je tiens à le dire et que je mets genre 4,5 miams pour celui-là. Tellement j'ai été surpris et agréablement surpris par ce film. Voilà. Et voilà, bah du coup, merci à vous tous.
Merci.
Merci.
Et puis, on se revoit très vite. Bon, je suis désolé, mais Alice, on va faire une pause sur les deux neuves. On en a fait deux d'affilée.
Juste... De toute façon, Catherine Deneuve va sortir des films, donc ne vous inquiétez pas, moi je vais pas faire de pause sur Catherine, il n'y a pas de souci. Et je vais continuer à gagner ma vie pour pouvoir m'habiller en Saint-Laurent et mettre des souliers Michel Vivien. Voilà, pour être bien. Comme Catherine Deneuve.
Est-ce plaisir à Alice, il faudrait pas genre avoir du mémorabilia de Catherine Deneuve ? Ou t'en as peut-être déjà, non ? C'était le chat de Catherine Deneuve, peut-être celui qui, Tina.
Elle a un nom de tel, tu sais.
J'ai pas, non, mais il faut savoir que Catherine Deneuve, ça marche chez moi qu'au cinéma, mais dans ma vie, je suis assez peu Catherine Deneuve, en fait. Voilà, mais d'accord. Par contre, au cinéma, ça provoque des choses absolument inouïes chez moi.
Mais du coup, sur les oldies, je pense qu'en fait, le prochain qu'on va faire, ça va être Blade Runner avant la sortie du deuxième.
Ouais, ça peut être très 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 bien, ça. Il sort quand d'ailleurs, le 2049 ?
Début octobre, donc ça fait pour le prochain oldies, du coup,
ouais,
tu vois.
On a le temps, ouais. Ok, très bien. Bon, on va faire ça, alors. Ah, si j'ai une petite question, on va en profiter, on va la lire maintenant et vous allez répondre. David qui nous envoie ça après avoir écouté l'épisode de It Comes at Night, je crois qu'il avait peut-être déjà envoyé un mail. Alors il disait, alors voilà c'est marrant, je me demandais si une épidémie foudroyante nous touchait, vous voudriez faire partie des 10% de survivants et risquer l'inhumanité d'un monde post-apocalyptique ou alors mourir avec les 90%. Et question subsidiaire, quels seraient vos rôles dans la néo-civilisation ? Voilà. Moi je réponds, je préférerais faire partie des survivants, ne serait-ce que par curiosité, j'aimerais bien voir comment ça évolue en fait. Et comment on reconstruit les trucs.
Ah oui, bien sûr, survivant. Ah. Et là, là, je deviens le maire de la colonie des survivants, ou tu vois, un truc un peu...
Ouais, c'est ça, ou alors ça va être The Road, et tu vas plutôt apprendre à ton gosse comment se suicider.
Voilà, parce que... est-ce que tu constitues dans ta bande de potes, en fait, des gens qui ont des capitales enfin des capitaux en l'occurrence, fin du monde. C'est-à-dire, je m'explique.
Ah oui.
Par exemple, tu
c'est
sais
un survivaliste.
Faire... Oui, exactement. Tu fais, tu sais faire pousser un potager.
oui, voilà.
Ou tu sais faire du feu sans sans un briquet.
Donc effectivement, pour répondre à cette question subsidiaire, moi je dirais que mon rôle, il serait assez restreint parce que je sais rien faire en fait. Si j'ai pas
si,
de
moi,
wifi, je sais rien faire.
J'y ai pensé il y a pas longtemps. Je me dis, moi, je sais pêcher des poissons en pêche sous-marine avec un harpon.
Ouais, mais voilà. les eaux seraient radioactives.
Ah. Alors, en l'occurrence. Je connais très bien la question. Pour un truc tout bête, c'est que je suis productrice d'un film sur le sujet. Donc il y a trois personnes qui sont penchées très très sérieusement sur ce sujet. Et autant vous dire que je n'ai aucune envie de faire partir de ce monde-là. Je veux mourir en paix. Voilà.
Donc tu te prends la comète avec tout le monde.
Ah mais moi je saute sur la comète en fait. je dis elle est où? Elle est sur moi. Et adieu bye bye. C'était sympa. Voilà.
Et C'est marrant, on en avait un peu parlé du coup dans l'épisode It Comes Up 9. Moi je veux clairement faire partie des survivants. Et pour la bonne et simple raison que en fait je crois pas à cette surviolence d'un monde apocalyptique.
Ouais.
On en avait déjà parlé, mais j'ai vraiment l'impression que ça serait l'occasion de faire beaucoup plus de coopération et que ça serait une société plutôt cool. En fait, c'est ce que je pense. Et après, sur le rôle que j'aurais, bah, de manière réaliste, le rôle que j'aurais, c'est le rôle du mort parce que je pense vraiment pas que j'y survivrais en fait. Mais
ouais, mais est-ce que
donc,
tu serais.
Oui,
donc,
mais attends, tu vas
tu
servir. Tes os vont servir.
Non,
ah oui, ben voilà.
La question importante, c'est quelle mort tu es dans l'histoire. Est-ce que tu es le premier mort, celui qu'on pleure, ou est-ce que tu es le 30e, celui qu'on enterre vaguement sur
oui,
un
vaguement.
Je crois que je suis un anonyme. Vraiment, le truc c'est de quand arrive mon tour, on en a plus rien à foutre quoi.
C'est, ouais, c'est lors, ça, de la lors de la migration du village, tout le monde arrive et fait genre, mais il y avait pas Arnaud là avec nous au début.
Ouais, j'ai pris ses bottes. Moi, j'ai voilà, je suis sur lui pour lui piquer ses bottes.
tu es la Michel Piccoli du monde post-apocalyptique.
Ah non, mais moi, de toute façon, Michel Piccoli, c'est. Mais comment ce mec n'a jamais pu incarner un méchant dans James Bond? Comment, alors que
ah ouais,
vraiment,
c'est vrai,
il avait
ça.
Une carrière aussi.
Il marcherait
pas.
Comment
faux,
ouais. Mais l'erreur de casting ultime, parce que quand on voit Belle de Jour, on dit, mais méchant dans James Bond direct. Il est
mais
français.
Ouais.
C'est vrai, ouais.
Il est méchant, il est beau. De manière un peu étrange. Non.
Il y a tout.
Erreur vraiment de casting du côté des producteurs de James Bond. Hein.
Ouais.
Voilà.
Je suis d'accord.
Bon, ben voilà, du coup, David a sa réponse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos questions à fin-de-séance@gmail.com. Et voilà. On
et comme vous voyez, n'hésitez pas parce qu'on répond vraiment à toutes vos questions.
Ah oui, à toutes vos questions. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée. Un bon dimanche à tout le monde.
Ouais,
et à très,
à
très
bientôt.
Vite, alors.
Bisous.
Au revoir.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.